Vous écoutez le sixième numéro de What the F podcast. Je suis Fania Noël. Bienvenue.
I know how to write forever. I don't think I could have happily stayed here with the calamity that has occurred so often in the world if I did not have a way of thinking about it. Past, present, future, which is what writing is for me. It's control. Nobody tells me what to do. I am in control. It is my world. It's sometimes wild, the process by which I arrive at something. But nevertheless, it's mine, it's free, and it's a way of thinking. It's pure knowledge.
On vient d'écouter Motomoto de Jay Arafat et un extrait de Toni Morrison, qui sont tous les deux décédés au mois d'août dernier. Deux grandes pertes. J'ai mis cet extrait de Toni Morrison parce qu'on voit souvent circuler des extraits où elle parle pourquoi elle écrit pour les Noirs, pourquoi... C'est important de centrer les personnes noires, mais il n'y avait pas beaucoup sur ce que ça lui avait apporté d'écrire et comment ça l'avait maintenu en vie. Et c'était important de l'entendre dire. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Alors ça va être découpé en trois parties. La première, c'est le sujet principal, en finir avec le quémandisme. On va revenir plus tard sur ce que c'est. Ensuite, je vous parlerai de mon livre, un petit peu, pas beaucoup, et d'un autre livre que j'ai lu, qui est super, un livre qui pense à la question de l'intersectionnalité, Black Feminism, d'une façon critique. C'est vraiment un bon livre. Et une nouvelle rubrique qui s'appelle... What the F concept, où je parle de concepts qui sont pas très courants ou qui sont courants, mais je dis moi ce que j'en pense. Et aujourd'hui on va parler du Africana Womanism. Donc voilà. Alors le fameux quémandisme. Qu'est-ce que le quémandisme? Je sais même pas, j'ai pas regardé, j'aurais dû regarder si ça... C'est un néologisme, enfin, je l'ai dérivé de quémander. Alors, le quémandisme politique, pour moi, c'est lié à un podcast que j'ai fait précédemment sur En finir avec les privilèges, mais sur quelque chose dont je parle dans mon livre, au chapitre qui s'appelle Negus Bancalus, En finir avec la stratégie pas prêt pour privilèges alliés et politique de représentation. Donc le quémandisme, il est dérivé de ça, de toute la politique autour de reconnaître ses privilèges, autour des alliés, de la représentation, etc. Donc j'ai déjà dit sur écouter le précédent podcast, En finir avec les privilèges, ce que je pensais de ça, de ces concepts qui, selon moi, mènent pas à grand-chose et qui sont plus des performances et qui sont extrêmement limitées dans des cercles limités. C'est sur ça. Mais sur le quémandisme politique, pour moi, c'est cette façon de demander, enfin pas de demander, de faire en sorte que les demandes de justice sociale, revendications que l'on porte, soit basé sur le fait que le groupe antagoniste ou les personnes du groupe antagoniste fassent quelque chose. En fait, voilà, c'est ça le quémandisme politique, c'est dire que c'est vraiment basé sur cette chose de « mais reconnaissez que vous avez tort, reconnaissez que vous avez tort, reconnaissez mon ressenti, etc. » Et que si ces personnes ne reconnaissent pas ça, ne changent pas d'attitude, notre condition ne va pas changer. Alors, dans un premier temps, enfin de loin, ça peut paraître une stratégie en disant « oui, on va changer les gens et après ils vont changer d'attitude, donc après ça ira mieux ». Mais en fait, ça enlève tout pouvoir. C'est-à-dire, ça enlève tout pouvoir. C'est-à-dire que votre avenir, ce que vous êtes, dépend du bon vouloir de quelqu'un. C'est-à-dire que le quémandisme politique qu'on voit, pour moi, qui est saupoudré par du progressisme ou de la pédagogie ou quoi qu'on en dise, et à l'inverse, totalement à l'inverse de ce qu'est l'organisation politique. Déjà, c'est très individuel, c'est dans la réaction, c'est réactionnaire, mais au terme premier du terme réactionnaire, c'est-à-dire que c'est en réaction, il n'y a pas de planification. Et ça donne une apparence de pouvoir sans penser le pouvoir, sans penser le après. Et contre ce quémandisme politique, parce qu'il ne s'agit pas de dire « bon, stop that shit, il faut bien faire quelque chose », il y a l'organisation politique et la revendication politique qui est vraiment l'opposé. Parce que l'organisation politique se base sur une stratégie, une définition des rapports antagonistes, c'est-à-dire que quel groupe sont en face de qui, ça veut dire quoi, un rapport antagoniste, c'est-à-dire que les intérêts objectifs d'un groupe, d'un groupe social, que ce soit les Noirs en termes de race, les femmes, sont antagonistes avec un autre groupe, parce que l'autre groupe, le groupe dit oppresseur, tire des avantages de la dépossession d'un groupe, c'est-à-dire de la dépossession économique, politique, d'assujettissement social, d'exploitation, etc. Donc, pour qu'il y ait des exploitants, il faut des exploités. Donc, c'est les rapports antagonistes, c'est des rapports antagonistes de classe, de race, de genre, d'orientation sexuelle, dans l'hétéropatriarcat, c'est ces rapports antagonistes. Donc, l'organisation politique, elle pense ces rapports antagonistes, définit les ennemis politiques, définit la famille politique à laquelle on peut s'organiser, et au lieu de quémander en disant « vous devez changer pour que ça... » pour que ça change, vous devez changer, vous, là, les méchants, la figure conceptuelle, ça s'attaque plus à quelles sont les structures qui font que c'est possible. Quelles sont les structures qui font que c'est possible. On va prendre un exemple. Par exemple, si notre objectif, c'est la libération noire. On va dire que c'est un objectif, la libération noire, faire en sorte qu'il n'y a plus de négrophobie, faire en sorte que les pays noirs d'Afrique et de la Caraïbe soient complètement indépendants et autonomes politiquement, économiquement, souverains, dans une société débarrassée de classe, voilà, une utopie afro-révolutionnaire, la libération noire. Donc si votre objectif c'est la libération noire, il y a tout un corpus théorique, militant, de pratique, c'est-à-dire c'est même pas que de la théorie dans les livres, c'est toute l'histoire des luttes, les archives, les groupes qui ont fait des choses sur lesquelles s'appuyer en disant ben, « bon, on va essayer cette stratégie, on va mobiliser ça, et après on veut ça, est-ce qu'on passe par le pouvoir électif ou non dans les pays dans les pays africains, caribéens, noirs. Donc voilà, donc il y a une stratégie, on est d'accord, pas d'accord. Donc, mais le but ultime, c'est la libération noire. C'est-à-dire que si vous avez un but ultime, ce que vous faites une action, après une autre action, après une autre action, après une autre action. C'est-à-dire que vous continuez de faire des actions, même si ce n'est pas vous qui allez voir le résultat, mais vous dites que toutes vos actions mènent vers le but. Donc ça, c'est si vous êtes dans le cadre d'une revendication politique, une organisation politique. Mais lorsque vous êtes dans le quémandisme politique, c'est que ça, c'est pas un objectif. C'est-à-dire que vous voulez que les personnes changent, vous montrent des preuves qu'ils ont changé et qui changent. Donc, disons par hasard, on va faire une hypothèse. Vous êtes là à dire, oh mon Dieu, il y a du racisme contre les Noirs, la France est vraiment un pays raciste, il y a de la négrophobie partout, on n'est pas représenté, il n'y a pas de figure, on se voit pas à la télé, à la machin, dans les politiques, etc. Et là, on vous offre, vous est offert le fait qu'une figure, une femme noire comme Christine Taubira se présente. Elle se présente aux élections, là on va vraiment faire de la politique fiction qui va aller loin. Elle se présente aux élections et elle gagne les élections. Donc la présidente de la République française est Christine Taubira. Donc là, comme vous êtes dans le clémentisme politique et pas dans l'organisation politique, vous êtes un peu coincé. Parce qu'on vous offre une... On vous dit, eh ben regardez, vous disiez qu'il fallait faire ça. Là, il y a quand même, on va dire, si elle est élue, c'est-à-dire au moins 50% des électeurs qui ont voté pour elle. Et ensuite, qu'elle fasse sa politique bien ou mal, ou qu'elle continue à défendre les intérêts de la France, qui sont des intérêts antagonistes au pays des Sud et notamment au pays d'Afrique, ça, bon, vous voulez de la représentation, vous avez eu de la représentation. Donc, c'est, voilà, parce que comme il n'y avait pas de, voilà, le plan, il était flou, et que c'était vraiment quelque chose de basé sur « faites-moi me sentir mieux ». Donc, le clémentisme poétique, c'est ça, là où je voulais en venir. C'était que le fond de l'affaire, c'est que vous demandez à qu'on fasse que vous vous sentiez mieux, que on se sente mieux. Et ça, c'est se sentir mieux, se sentir mieux dans sa peau, dans sa vie. C'est une demande normale. Tous les êtres humains, même les êtres humains qui subissent pas le racisme ou le sexisme, ils veulent être mieux, ils veulent être heureux, etc. Ça doit être une aspiration de la grande majorité de l'humanité. Mais se sentir mieux, c'est pas ça qui base le militantisme. C'est pas ça. L'émotion, c'est pas ça qui base ça. Se sentir mieux, c'est des demandes que même, je pense, même dans ces rapports individuels, parce qu'on peut dire, ah oui, mais dans ces rapports individuels, même se sentir mieux, vos amis, votre famille, etc., ils sont pas là pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux. C'est que les êtres humains, ils sont pas à disposition d'autres êtres humains pour qu'ils se sentent mieux. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est faire en sorte que vous soyez assuré de qui vous êtes, des choix que vous voulez faire, des choix de la façon dont vous voulez vivre, pour vous sentir mieux, mais pas dans la dépendance avec ce que les gens font, mais avec le fait que vous savez ce qui va faire vous sentir mieux. Et je dis ça pas dans un truc de « oh, on va relativiser, on peut se sentir mieux si on veut ». Non, moi je sais que ce qui me ferait me sentir mieux, c'est que ce monde qui est inégalitaire, injuste, change. Donc je sais ce que je veux faire et ce que je dois faire pour que ce changement arrive, même s'il n'arrive pas pendant que je suis en vie. Donc je laisse pas la possibilité à X ou Y de changer, et quand X et Y changeront, ben ça ira mieux. Quand il n'y aura plus ces agressions, micro-agressions, ça ira mieux. Et ça fait qu'on s'étonne moins des symptômes alors que la maladie persiste. Moi, c'est vraiment une... Je trouve ça étonnant qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme Thuram ou d'autres choses, ce qui s'est passé avec Thuram, où il s'est pris un... Je pense qu'il l'a dit dans une interview à Mediapart, il s'est pris un rappel à l'ordre après ses déclarations qui sont vraiment le niveau vraiment 101, comme on dit, un débutant. T'as même pas atteint le niveau 1 de Sonic, hein. Sur le racisme en disant il y a des blancs, il a même pas dit des blancs, les blancs, il a dit il y a des blancs, certainement, not all blancs, qui se sentent supérieurs. Vraiment, alors là, il s'est pris un rapport à l'ordre. Et on ne peut pas être surpris. C'est-à-dire que si on dit qu'on est dans un système de suprématie blanche raciste, ben, le système agit normalement en conformité avec, avec les valeurs et avec les moyens qui le font tourner. Donc pour arrêter qu'il y ait ces symptômes qui apparaissent, il faut se concentrer et se battre sur vraiment les causes. Et les causes sont l'organisation systémique, hiérarchique, raciale, de classe et de genre, et de la division du travail, qu'il soit genré, et de race et de classe. Donc c'est ça sur quoi il faut se pencher pour éviter justement de dépenser cette énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie. Et moi, si c'était l'énergie individuelle des individus, je pense que tout le monde est responsable de son propre temps. Tout le monde fait ce qu'il veut avec son propre temps et sa propre énergie, c'est pas la mienne. Là où ça m'interroge et ça me pose question, c'est quand quand ça phagocyte, on va dire, l'organisation politique de plein de mouvements. C'est ça, c'est que parce que les organisations, même celles qui se disent radicales, même les organisations radicales, où les militants, ils sont pas dans des bulles, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés par des conversations, par des attentes des personnes qui veulent militer, ce qu'on attend de ces organismes, les organisations qui se créent aussi, qui sont dans cette conversation qui est perpétuelle, qui est là et qui continue et qui avance, et il n'y a pas un moment où on peut juste arrêter et faire une pause. Donc c'est pour ça que ça m'interroge pour dire qu'on peut en même temps penser la chose de manière avec un peu de sang-froid, on va dire, et sans aller aussi dans les invectives, en employant tout le champ lexical là des soraliens ou je sais pas quoi là qui dit que sur la victimisation, pas du tout, parce que moi je pense que on peut pas résister à la réalité. Et admettre la réalité, c'est que effectivement nous sommes victimes. Donc il faut admettre la réalité, parce que c'est la première étape, c'est en admettant la réalité, en admettant le peu de pouvoir que nous avons, le peu d'options que nous avons, le peu de lignes que nous faisons bouger, le peu d'énergie qui sont mis dans l'organisation, dans la construction des stratégies. Ben c'est en admettant cette réalité qu'on peut essayer de la changer. Donc on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Et c'est en vivant dans des fantasmes ou dans des choses qui sont très fashionable, c'est-à-dire qui peuvent être extrêmement malléables, qu'on ne fait pas un pas. Et on avance, c'est vrai qu'on bouge, on est en mouvement, on n'avance pas, on est en mouvement, mais en mouvement circulaire, c'est-à-dire en mouvement, on tourne sur nous-mêmes et en agitation, et c'est ça, c'est l'agitation et une conversation qui ne se termine jamais. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le quémandisme, et ce serait bien d'arrêter. Oui, c'est ça, juste d'arrêter, pas de négocier, d'arrêter. Ce serait bien. Mais personne n'est obligé, parce que je crois au libre arbitre. Départ. Parce que le plan des départs, c'était d'écrire un autre livre que j'écris toujours. Mais cette question revenait sans cesse. Et je me suis dit que c'était impossible de la diluer dans ce que j'écrivais. Donc il fallait que ce soit mis à part, que ce soit un propos à part, un propos extrêmement bref, qui dise ce que je pense être des pistes de réflexion
pour une utopie afro-révolutionnaire. Donc j'ai écrit ce livre parce qu'il ne pouvait pas s'insérer dans ce que j'écrivais précédemment.
Donc c'était un petit extrait de, d'une conversation que j'ai avec moi-même dans une vidéo sur, sur mon livre qui est paru en septembre, qui s'appelle « Afro-communautaire, appartenir à nous-mêmes ». Et c'est un manifeste, un très très court manifeste qui propose une utopie afro-révolutionnaire, des questions, donc il propose... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manuel avec plan A, plan B, 8 étapes. C'est une invitation à y réfléchir ensemble, à construire ensemble, à avancer ensemble. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça me ressemble. Donc c'est assez drôle. Oui, je peux dire ça. C'est assez drôle, c'est facile à lire. Et c'est court. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse... Achetez-le, commandez-le, vous pouvez le commander, vous le trouvez dans, en librairie, vous pouvez le commander à votre libraire, le commander aux éditions Sileps. Voilà, il est disponible partout, je pense, à la FNAC, enfin partout. Et peut-être que vous n'allez pas le trouver en rayon, mais si vous demandez à le commander, il sera dans votre librairie. C'était la petite minute autopromo. Donc je voulais vous parler aussi d'un livre... Que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment, 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 vraiment super. Un livre qui s'appelle Black Feminism Reimagined After Intersectionality. C'est écrit par Jennifer Sinach, qui est une chercheuse. Une chercheuse, une féministe, une black féministe. Pourquoi je l'ai trouvé extrêmement intéressant, le livre n'est pas traduit en français, malheureusement, c'est un livre qui questionne le fait, est-ce qu'il faut s'accrocher à l'intersectionnalité ou juste le laisser aller. Et ça rejoint aussi des choses que vous pouvez, vous, si vous avez lu le livre de moi aussi, Afrofemme, sur l'intersectionnalité, comment il est repris par les blanches, qu'il est mis à toutes les sauces, etc., donc les véganes, etc., et qu'on assiste à des choses. Moi, la dernière fois, j'écoutais un podcast que j'aime beaucoup, au demeurant, qui s'appelle La Suite dans les idées, qui est un podcast de France Culture qui discute de sociologie, qui est présenté par Sylvain Bourbeau, je ne sais pas comment prononcer son nom. Et là, pendant le podcast, où il y a, c'est toujours des chercheurs, des sociologues, des chercheurs en sciences humaines qui sont invités, et des auteurs. Et là, il y a le plateau, c'est le présentateur, elle est blanc. Les deux chercheurs invités sont blancs, là. Tous ceux sur le plateau, ils sont blancs, ils sont quatre. Et là, ça part d'intersectionnalité à propos d'un livre qu'un blanc a écrit sur des blancs ouvriers au Canada. Donc, c'est pour vous dire à quel point la chose est venue, en tout cas. Donc, ce livre, si vous lisez l'anglais, est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment ça. Ça questionne, et elle questionne le fait de tout, comment ça a été dévoyé, comment c'est utilisé pour plein d'enjeux, que ce soit dans les milieux... dans les milieux activistes, dans les milieux des médias, à toutes les sauces, c'est-à-dire on met intersectionnel à toutes les sauces, et c'est marchandisé, et ça veut dire absolument tout ce qu'on veut, ça veut juste dire plus quelque chose, plus. Donc voilà, et elle a cette phrase où elle dit il ne faut pas s'accrocher à l'intersectionnalité comme une déclaration de foi. C'est-à-dire que les concepts et les théories sont faits pour être discutés, sont faits pour être critiqués, pour évoluer, pour être abandonnés, quoi que vous voulez. Donc il ne faut pas s'accrocher comme un article de foi. Mais en même temps, elle interroge le fait où est-ce qu'il faut toujours recommencer ? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des penseuses noires qui créent quelque chose, après, c'est arraché par d'abord les féministes blanches et après la blanchité, les académiques, etc., à ce qu'il faut juste laisser après replanter à chaque fois et se laisser braconner. Donc il y a toute cette conversation, je ne vais pas vous spoiler tout le livre, mais qui est assez intéressant, et ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec Jade Almeida, qui habite à Montréal et qui fait son doctorat sur cette question notamment, et qui parle de ça. Et on a vu cette conversation il y a des choses qui sont créées, après il y a du braconnage dessus, et après on doit lâcher. Mais là ce qui est différent avec d'autres concepts, la conceptrice même, la personne qui a créer le Kimberlé Crenshaw, ce concept d'intersectionnalité, sa politique a des lacunes. C'est-à-dire, c'est pas comme si elle était, touchant du bois là, je mets pas mauvais oeil, c'est pas comme si elle était décédée, etc. C'est qu'elle est, elle est vivante, et que sa conception même, comment elle le porte, même si elle apporte des inflexions, porte des lacunes. Le fait que, par exemple, il y a un centre qui s'appelle The Center of Intersectional Justice à Berlin, qui est centré sur ces questions, et pour dire la vérité, en étant très claire, même si j'ai beaucoup de respect et d'amitié, même si on n'est pas amis, pour les gens qui y travaillent, les gens qui y dirigent, pour moi, la politique que porte ce centre est vraiment, vraiment, vraiment assez éloignée de ma politique et la politique de Black Feminist Radical. Donc, c'est un super livre. C'est écrit par Jennifer C. Nash et ça s'appelle Black Feminism Reimagined After Intersectionality. Et c'est sorti là en 2019. Et c'est assez court et c'est bien écrit. Donc voilà. Et ça questionne beaucoup de choses. Et c'est bien. Lisez-le. Si vous lisez l'anglais, lisez-le. Donc, c'est la nouvelle rubrique. Je pense que je vais réfléchir le nom parce qu'il n'est pas encore swaggy swag. Donc, pour l'instant, ça s'appelle What the Concept ou je sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, c'est un concept qui on n'entend pas beaucoup parler en français, etc. Ça s'appelle le Africana Womanism. Donc, déjà, je ne sais pas si tout le monde, mais au cas où, qu'est-ce que le womanism ? Womanism, c'est un terme qui est apparu en 1983 avec Walker, vous savez, Alice Walker, celle qui a écrit La couleur pourpre, dans un essai qui s'appelle In Search of Our Mother Garden. C'est paru en 1983 et c'est dedans qu'elle parle. Je crois que le titre complet, c'est À la recherche de les jardins de nos mères. Un livre humaniste, un truc comme ça. Mais en anglais, c'est In Search of Our Mother Garden, Womanist Prose. Et c'est sorti dans les années 80, en 1983. Donc, womanist, c'est vraiment une théorie, une pratique qui centre les femmes noires dans la recherche, dans les analyses, dans la réflexion, dans l'éthique. Et ce n'est pas un hasard que ça vient en 1980, parce que ça vient à un moment où... Les femmes noires aux États-Unis questionnent vraiment de manière virulente le féminisme blanc, mais aussi la pratique, les théories faites par les hommes noirs sur plein de questions. Et il y a ce terme qui émerge sur vraiment centrer les femmes noires dans une analyse extrêmement radicale. C'est-à-dire que dans celles qui se reconnaissent dans ces termes, on trouve les femmes noires lesbiennes, la notion de justice reproductive, de justice réparatrice fleurit aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un concept de féminisme, le womanism, assez radical et centré sur les femmes noires. Donc c'est pour le womanism. Donc maintenant on peut venir à l'Africana womanism. Donc Africana, c'est un terme qui désigne toutes les études qui concernent les afro-descendants. C'est-à-dire on dit les afro-descendants comme les Haïtiens, c'est-à-dire que tous les gens qui qui sont descendants de soit de la toute la diaspora, c'est-à-dire la diaspora qu'elle soit constituée historiquement après la, les traites, que ce soit transatlantiques, mais les traites aussi arabes, mais aussi la diaspora comme les personnes de parents africains ou caribéens nés en Occident et qui évoluent en Occident. Donc, les Africana, Africana Studies, bon, ça, ça n'existe pas en France, mais dans les pays anglo-saxons et dans d'autres pays, il y a des Africana Studies. Sur ça, ça désigne cette population particulière, les afro-descendants. Ça désigne les afro-descendants. Maintenant, on peut venir au concept d'Africana Womanism. Donc, Africana Womanism, ça apparaît à peu près au même moment, dans les années 80, que le terme Womanism. Et c'est théorisé par Cleonora Hudson Wims, qui est une féministe noire. Et pourquoi Africana Womanism? C'est parce que pour elle, les féminismes noirs portent en eux une contradiction majeure, c'est l'ethnocentrisme qui est présent dans leur société, notamment, elle parle pour les États-Unis, c'est-à-dire il y a cette question État-nation, c'est-à-dire que les Noirs américains, les Noirs britanniques, les Noirs en France, etc., font partie d'un cadre, d'un État-nation fort, un État-nation qui, comme la plupart des États-nations occidentaux, porte un ethnocentrisme extrêmement fort et la question nationale. Donc elle recherche le terme féminisme qui soit noir ou africain, elle recherche le terme que soit féminisme noir ou africain parce que elle pense que c'est un legs du féminisme blanc et de la classe moyenne. Donc c'est pour ça le womanism. Donc c'est un féminisme, le Africana Womanism, c'est un féminisme diasporique noir mais centré sur ancré dans l'afrocentrisme. Donc c'est vraiment dans l'ordre, c'est vraiment race, genre, classe. C'est ça, c'est centré dans l'afrocentrisme et diasporique. Donc, et ça essaye de résoudre des défis des féminismes noirs, qu'on prend les féminismes noirs pas comme la traduction de black feminism comme un concept, mais féminisme noir comme les mouvements black feminist, afroféministe, africana womanism, mais les mouvements aussi portés par des femmes noires dans les pays majoritairement noirs. Donc quand on prend les femmes qui font du féminisme dans des organisations où il y a des noirs, ou des organisations de femmes noires, c'est un des défis, c'est de voir où le travail est fait en commun. Parce qu'il n'y a pas de syndicat de féminisme noir au niveau transnational, parce que les femmes noires sont à la marge, c'est-à-dire que soit elles sont dans des pays qui sont à la marge, soit dans les pays qui ne sont pas à la marge, font partie des marges. Donc il y a toute cette question de moyens, toute cette question de connexion, toute cette question de où on se rencontre dans les luttes. Donc l'Africana Womanism, il a été théorisé, il n'y a pas que Cleona qui l'a théorisé, il y en a d'autres, et il y a 18 caractéristiques, il y a l'autodéfinition, le centré sur la famille, la flexibilité, il y a un rapport spécifique aux hommes aussi, et c'est lié à l'Afrique. Il y a aussi l'ambition, le respect des aînés, la spiritualité, l'authenticité et l'authentique sororité aussi. Le fait d'être complet, la complétude de ça, et réfléchir comme ça, la masculinité noire dedans, c'est-à-dire ça prend en compte la réflexion sur la masculinité noire, comme c'est un féminisme diasporique, ça prend en compte que les femmes noires sont discriminées pour la question de genre et la question raciale à cause du patriarcat et du racisme, mais que les hommes noirs sont discriminés sur la question raciale parce qu'ils sont noirs, mais aussi sur la question, mais que ça impacte leur genre, vu que être un homme noir, c'est une catégorie particulière. Donc c'est penser aussi ces questions. Il y a un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Africana Womanism Reclaiming Ourselves, qui explique tout ça. Donc ça, c'était le concept dont je voulais parler. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça date de 1980 et depuis il y a eu plein d'apports, plein de changements, de débats. Il y a plein de débats entre le Black Feminism et l'Africana Womanism. Et il y a plein de débats entre le Womanism et l'Africana Womanism. Il y a des débats entre le Black Feminism et le Womanism, etc. Donc c'est des choses assez intéressantes. Et il y a plein de débats entre l'Africana Womanism et le Caribbean Feminism ou African Feminism qui sont discutés avec des militantes, des théoriciennes féministes des pays africains ou caribéens, des pays africains noirs ou caribéens, sur cette question, où est-ce qu'on on se rencontre. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec un extrait d'un post qu'a fait Kinga Yamata Taylor, qui est une chercheure. Elle est professeure, assistante professeure à l'université de Princeton. Elle a écrit un livre qui s'appelle Black Lives Matter, le renouveau de la révolte noire américaine, mais aussi un autre qui s'appelle qui est sur la propriété, comment le système raciste empêche les Noirs d'être propriétaires de leur appartement et maison, et comment ça impacte le taux de SDVF, etc., qui sort bientôt. Et elle a un blog qui est vraiment bien, elle écrit des articles super pertinents. Elle avait écrit quelque chose à propos du livre de Michelle Obama, qui s'appelle Devenir, Becoming Michelle Obama, là, le livre qui a fait sensation. Il y en a eu plein d'exemplaires, les gens sont allés la voir dans des stades, etc. Et je trouvais ça assez intéressant parce que moi, j'ai compris pourquoi il y avait cet engouement, mais en fait, je ne comprenais pas, parce que parfois, il y avait des gens qui étaient là et disaient « Ah oui, qui présentait un discours radical, en disant « Ah oui, ça, ce texte, il est extraordinaire », mais tu les voyais extasiés et partager des quotes, des citations, pardon, du livre de Michelle Obama et des analyses. Et originales. Il y a peut-être quelque part, ça ne peut pas être les deux. En fait, ça ne peut pas être les deux. Si A et B sont contradictoires, on ne peut pas aimer A et B. Voilà, c'est vraiment, c'est-à-dire si A et B sont mutuellement exclusifs dans le fait ou détruisent l'un l'autre, parce que les discours de libération noire détruisent le discours de Michelle Obama, enfin veulent la disparition du discours assimilationniste des Obama, et le discours assimilationniste des Obama veut la même chose des discours radicaux de libération noire, on ne peut pas aimer les deux. Ce n'est pas possible. Et on va se quitter donc avec cet extrait écrit par Kinga Yamata Taylor. Je mettrai les références vers l'article, il est en anglais, donc c'est un extrait traduit. Puis avec Shock Quip Town, qui est un groupe afro-colombien, et le son Nuki. L'écrasante popularité de Devenir participe de ce problème, en ce qu'il minimise les structures et les systèmes et insiste en revanche sur les efforts, le courage et la résilience présentés comme la manière de s'en sortir pour les Noirs. Comme je l'ai dit précédemment, le problème de ce pays n'est pas nécessairement l'amnésie, mais la façon dont l'oubli de l'histoire, de l'oppression et de la domination est organisé et structuré. Devenir relate à l'intention du monde les expériences des Africains-Américains, pas seulement sa propre destinée extraordinaire, en s'adressant au monde entier, mais le fait malheureusement d'une manière qui présente la volonté et la persévérance comme la puissante force à même de venir à bout des régimes discriminatoires. C'est bien fâcheux comme mensonge, qui a été utilisé pendant des décennies pour brouiller, voire dissimuler, les forces systémiques qui maintiennent la plupart des Noirs pauvres et de la classe ouvrière, lesquels constituent de fait la majorité des Noirs dans les strates inférieures d'un ordre social cruel, Le spectacle des Obama ou d'autres icônes culturelles noires est ainsi employé pour ressusciter les vieilles mythologies usées de l'exceptionnalisme américain et de la mobilité sociale. Bien entendu, Michelle Obama a tout à fait le droit de livrer son histoire et son récit propre. Mais nous devrions également affirmer clairement que son récit sera utilisé pour en saper d'autres. Ce bien plus typique qui relate ce que signifie être une femme noire aux États-Unis. Un pays où tous les efforts et le travail acharné que ces femmes pourront déployer ne mènent souvent qu'à la dépression, l'isolement, la violence et la mort prématurée. Si le féminisme noir a pu apporter quelque chose, c'est bien la façon dont les expériences des femmes noires ordinaires nous montrent ce qu'est profondément la fonction de l'oppression et de l'exploitation qui se réfracte à travers la race, la classe et le genre. De sorte que nous nous voyons contraints à nous atteler à la construction de coalitions solidaires amenant toutes les forces sociales à s'engager pour mettre fin aux causes profondes de ces maux. En ce sens, si l'autobiographie de Michelle Obama évoque certainement ses expériences du racisme et du sexisme, sa position de classe limite sa généralisation aux expériences des autres femmes noires. Avant même l'arrivée des Obama à la Maison-Blanche, quand Michelle Obama commença à s'inquiéter des habitudes alimentaires et de la potentielle prise de poids de sa fille aînée, elle engagea un cuisinier pour préparer des repas sains pour sa famille. Et ce, rappelons-le, avant son arrivée à la Maison-Blanche. Il est ainsi faux de dire que le livre, qui s'est largement vendu à travers le monde, parle de la condition des Noirs en général, ou plus spécifiquement de celle des femmes noires. C'est pourtant bien sûr exactement de cette façon qu'il sera vendu. Et cela nous donnera une idée de la façon dont les vies des femmes noires pauvres et de classe ouvrière sont effacées et véritablement mises à l'écart, tandis que le succès de quelques-unes sont brandis comme autant de preuves de l'affirmation de Michelle Obama décrivant le plus grand pays du monde.
Tan pronto me podía enamorar. Desde el día en que me habló me gustó su voz. Y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó. Y comencé a perderme en su mirada. Porque yo te quiero para mí. Y solo para mí. Pues como tú no hay. That's right. Yo te quiero para mí. Y solo para mí. Desde el día en que me habló me gustó su voz. Y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó. Y no he encontrado a nadie como tú. Porque yo te quiero para mí. Y solo para mí. Pues como tú no hay. That's right. Yo te quiero para mí. Y solo para mí. Pues como tú no hay. That's right.
De esos amores que cada día crecen, son especiales en el momento que aparecen. Quiero llevarte a la playa y conocer el mar. Hey, yo. Que visitemos juntos cada lugar. Porque tú sabes que te quiero. Tú me quieres también. Tus besos son sinceros. Y me saben a mí entregarme a ti, baby. Solo a ti, baby. Tú eres my number one. Tú eres my lady.
Porque yo te quiero para mí.
A ti estoy lleno de ilusión. A tu disposición pongo mi corazón. No hay nadie como tú que me llene de alegría. Eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me inspira a mi obra de arte. Sé que a donde vaya siempre iré a buscarte. Quedarme junto a ti, que estás solo para mí. Bendigo el